Radio Okapi.
La MONUSCO va appuyer la vision du chef de l'État pour la stabilité dans l'Est de la RDC. Déclaration de la nouvelle patronne de la mission onusienne, Madame Bintou Keïta, a rencontré hier la ministre des Affaires étrangères, Marie Toumba Nzeza, et ensuite elle a rencontré le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Affaire meurtre des experts de l'ONU dans le Kassai. L'audience d'hier a été consacrée à l'examen des relevés téléphoniques et ces derniers révèlent notamment que c'est Betu Chintela qui a informé certains habitants de Bunkonde de l'arrivée des deux experts de l'ONU le 12 mars 2017. Et puis, Tchondotia Kassai, c'est la nouvelle structure qui remplace la fondation Hirondelle dans le Kassai. Sa mission, continuer le travail de la stabilisation de la région du Kassai. Et pour en parler, nous recevons Joseph Mboui, le directeur exécutif de cette structure. Madame, Messieurs, bonjour. La nouvelle représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Madame Bintou Keïta, a rencontré hier au Palais de la Nation le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'issue de l'entretien, Madame Bintou Keïta a indiqué que son mandat s'inscrit dans un partenariat solide de renforcer les institutions et travailler à la stabilisation du pays. Peu avant la rencontre avec le président de la République, Madame Bintou Keïta s'est entretenue avec la ministre des Affaires étrangères. Elle a déclaré que la mission va appuyer la vision du chef de l'État pour la stabilité de l'Est de la RDC. Selon Bintou Keïta, la stabilité du pays constitue une priorité du président de la République pour laquelle la MONUSCO promet de l'appuyer dans cette vision. Procès meurtre des experts de l'ONU dans le Kassai. Les relevés téléphoniques permettent d'établir que c'est Betu Chintela qui a informé des personnes habitant Bunkonde de l'arrivée des deux experts de l'ONU le 12 mars 2017. C'est ce qu'a soutenu hier le ministère public devant la cour militaire de l'ex-Kassai occidental dans le procès des présumés meurtriers de Zaïda Catalan et Michael Sharp. L'audience d'hier a été consacrée à l'examen des relevés téléphoniques qui révèlent des échanges entre plusieurs protagonistes de ce dossier. Explication de Joël Bofengo.
Les relevés exploités lors de l'audience de ce jeudi renseignent des échanges téléphoniques notamment entre Zaïda Catalan, Michael Sharp, leur interprète Betu Chintela, le colonel Mambweni, Thomas Kachama, José Chibwabwa ainsi que 5 habitants de Bunkonde. Le ministère public rappelle dès le début de l'audience que Betu, que le colonel Mambweni avait présenté aux experts par téléphone, avait promis à ces derniers de prendre contact avec des personnes habitant Bunkonde en prévision de leur voyage. Les relevés téléphoniques révèlent d'abondants échanges via SMS et par appel vocal entre 5 habitants de Bunkonde, Jean-Si Mwamba, Bernard Lutumba, Anthony Chibasu, André Kamba, Sahel Badi et Betu Chintela. Pour l'accusation, ces échanges montrent bien que l'info du voyage des experts a été donnée à des habitants de Bunkonde. Et le président des miliciens, Jean Bosco Mukanda, devait naturellement avoir l'information, affirme le ministère public. De Kananga, Joël Bofengo, Radio Okapi.
539 cas de violation des droits de l'homme documentés en RDC en janvier 2021 par le Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme, soit une baisse de près de 6% comparée à décembre 2020 où 572 violations ont été enregistrées. C'est ce qu'indique la note mensuelle du Bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme publiée hier à Kinshasa. Cette diminution reflète une baisse de l'ordre de 25% du nombre des violations attribuables à des militaires FARDC dans le Tanganyika, en Ituri, au Nord et Sud Kivu. Le nombre d'atteintes aux droits de l'homme par les groupes armés documentés au cours de janvier dernier ont été en baisse de l'ordre de 7% par rapport à décembre. Sur l'ensemble du territoire, les agents de l'État sont responsables de 49% des violations documentées dont les exécutions extrajudiciaires, tandis que 51% ont été commises par des combattants armés. Le bureau conjoint de l'ONU dit également avoir traité sur l'ensemble du territoire 29 cas de menaces à l'encontre de 42 personnes, dont 4 femmes, parmi lesquelles 28 défenseurs des droits de l'homme et 8 journalistes. À Beni, réussir ensemble, c'est la thématique qui a été débattue hier par une cinquantaine des représentations des femmes et hommes des différents partis politiques, mais aussi des responsables des différentes organisations féminines de la place. Cette thématique émane d'un projet lancé depuis l'année dernière, sensibilisant les femmes à prendre conscience de leurs responsabilités, mais surtout les motiver à adhérer aux instances de prise de décision pour la paix et le développement du pays. C'est comme l'explique ici Madame Aimée Kiakimoa, point focal du collectif Rien sans les femmes. Elle est au micro de Marc Marofimo.
La participation de la femme est qu'elle soit capable et qu'elle soit compétente et qu'elle soit capable d'accéder à ces postes de prise de décision. Et raison pour laquelle il y aura des formations, des capacitations des femmes pour qu'elles accèdent aux postes de prise de décision. Et cette activité donnera à ces femmes le courage d'adhérer dans des partis politiques et donnera la chance à la femme de plus participer aux postes de prise de décision parce que la majorité des postes de décision sont des postes politiques. Maintenant, nous voulons que la femme accède à ces postes politiques et qu'elle participe à la gestion des choses publiques à tous les niveaux, mais à commencer par la nationale, provinciale et locale. Et à tous les niveaux, même si on peut arriver dans les ménages, que la femme participe à ces postes-là, qu'elle ait au moins une décision.
Restons à Beni. La coordination urbaine de la jeunesse estime que la mesure du couvre-feu pour lutter contre le coronavirus n'est plus adaptée dans la ville en cette période. Selon son président, cette mesure n'est fait qu'accroître la criminalité à Beni, allusion faite à l'assassinat la nuit dernière d'un civil par des hommes armés non identifiés. Tout en étant favorable au renforcement des mesures barrières pour lutter contre cette pandémie, la coordination de la jeunesse de Beniville invite le chef de l'État à lever cette mesure à Beni. Par ailleurs, vous le savez, la RDC a reçu ses premières dose de vaccin contre le coronavirus cette semaine. Avec ce premier lot, c'est d'abord 20% de la population congolaise qui sera vaccinée. La vaccination commence le 12 mars et la priorité sera accordée au personnel de santé, les personnes présentant d'autres maladies à risque et les personnes âgées de plus de 55 ans. Au cours de l'émission au Capi Service, le directeur adjoint du programme élargi de vaccination PEV a insisté sur le fait que le vaccin ne tue pas mais protège. Docteur Aimé Chikomolo, joint par Kachama.
Il y a eu trop de rumeurs qui ont circulé à gauche à droite. Je pense qu'il est temps de sensibiliser la population. Ce vaccin ne tue pas, ce vaccin protège. Pour le moment, vu cette limite par rapport à la disponibilité de vaccins, nous avons regardé les provinces qui ont rapporté beaucoup de cas de Covid. Donc, ce sont là les provinces qui sont à risque pour le moment. Et on s'est dit, étant donné que les quantités de vaccins sont limitées pour couvrir tout notre pays, mais l'objectif est de couvrir tous les pays, on s'est dit, commençons par les provinces les plus affectées. C'est notamment la ville-province de Kinshasa, la province du Congo central, la province de Haut-Katanga et la province du Nord-Kivu. C'est des provinces qui ont déjà rapporté des milliers et des milliers de cas et qui ont entraîné quelques décès, bien sûr, autour des 1 à 2% de létalité, donc des décès dus à la COVID.
Justement, concernant le vaccin anti-Covid, le docteur Mouvoudi du comité de riposte appelle la population à faire attention aux rumeurs véhiculées à travers les réseaux sociaux. Le docteur Mouvoudi répond également aux questions de Jodine Kachama.
Je crois que la lutte contre la COVID-19 a commencé depuis l'année passée, bientôt un an. Et donc, si vous avez vu comment est-ce qu'on a commencé avec cette lutte, on a fait face justement à des mauvaises informations qui ont été diffusées dans les réseaux sociaux. Donc, soyez prudents. N'acceptez pas tout ce qui passe par les réseaux sociaux parce que ce sont des réseaux sociaux. Il faut regarder, il faut poser la question aux experts, on va vous éclairer. Donc il ne s'agit pas ici de se mettre dans une position de dire « moi je ne peux pas accepter » comme on disait avant, on n'accepte pas que la maladie existe. Ici il s'agit de dire « on a un médicament, on a un produit, on a un vaccin qui est arrivé grâce à l'OMS et grâce aussi à l'expertise pays traduite à travers le groupe technique consultatif, traduite à travers l'autorité de régulation qui donne l'autorisation de mettre un produit sur le marché. Tout ça, ça permet à ce que les pays prennent la décision.
Province de l'Omami, lancement depuis mercredi à Cabinda de la campagne de distribution des masques, des médicaments contre les maladies tropicales négligées. Ces maladies sont entre autres la trypanosomiase africaine, couramment appelée maladie du sommeil, ainsi que les vers intestinaux. D'après le chef des divisions provinciales de la santé, cette campagne de distribution cible les enfants en âge scolaire, soit 5 à 14 ans. La vie de Lubumbashi est de plus en plus sale. D'après plusieurs habitants de la capitale du cuivre, des immondices sont visibles à différents endroits. L'autorité urbaine a pour sa part invité les bourgmestres des communes et toute la population à s'impliquer aussi dans la lutte contre l'insalubrité pour le bien de tous. Reportage signé Jean Gandou.
La capitale du cuivre perd de son éclat jour après jour. Les immondices jonchent plusieurs artères et dégagent des odeurs nauséabondes, surtout pendant cette période de fortes pluies. Plusieurs personnes attribuent cet état des choses aux vendeurs qui ont déserté les différents marchés de la ville pour étaler leurs marchandises le long des avenues du centre-ville et des communes. Pire encore, il y en a même qui préparent de la nourriture en plein centre-ville.
Les marchands pirates, ils sont partout, ils jettent des immondices partout. La ville de Lubumbashi, que nous appelons en son temps Boula 2000, c'est devenu pratiquement une poubelle. Le fait qu'il y ait des personnes qui préparent des foufous en plein centre-ville, c'est des choses qu'on n'a pas vues dans cette ville.
Le marchand pirate rejette cette responsabilité qui leur est imputée. Ceux qui rendent la ville sale sont ceux qui vendent de l'eau, des beignets, des vivres frais, des foufous et autres. Nous autres qui vendons les habits, nous ne voyons pas comment nous pouvons salir la ville. Contacté à ces sujets, le maire de Lubumbashi, Guilain Robert Lubaba, précise.
Chaque bourgmestre, surtout les quatre bourgmestres qui reçoivent les redevances minières, je leur ai dit qu'il fallait aussi voir du côté insalubrité. À celui qui ne veut pas s'investir pour rendre propre sa commune, en tout cas, je prendrai mes responsabilités en tant que maire de la ville.
Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Ici à Kinshasa, les efforts consentis par les autorités du pays pour rendre fluide la circulation dans la ville continuent à buter sur la réalité effective des routes encore praticables. À scruter de très près, beaucoup d'usagers pensent que le mal est profond, non seulement à cause des pluies abondantes qui se déversent sur la ville, mais surtout à cause de la qualité des routes construites ou réhabilitées. Pour en savoir plus, notre reporter Jacques-Yves Molima a une fois de plus sillonné la ville. Dans une série de reportages, il a scindé la capitale en trois parties. Dans ce premier numéro, il nous promène dans le centre-ville. Reportage.
Au centre-ville, sur Flambeau, la bretelle entre Kassavubu et les cabinets du gouverneur de la ville est en état très avancé des délabrements. L'avenue Itaga, qui pouvait bien servir de déviation pour atteindre bon marché, n'existe plus que de nom.
Rien ne marche. Vous-même, vous êtes là, vous êtes en train de constater, non? Ce qui veut dire le pays va mal, faut arranger.
Ce n'est pas tout. Toute l'avenue Kassai, à partir de Kabinda, jusque sur Commerce, est l'ombre d'elle-même. D'ailleurs, une de ces parties entre Commerce et Flambeau n'est presque plus utilisée. Voire même, l'avenue Kassavubu, qui tenait encore, s'est complètement dégradée entre Rwakadingi et Itaga.
Tout ça considéré dans ce pays, parce qu'il n'y a pas de route.
Les amortisseurs des véhicules s'abîment, les caniveaux sont bouchés, à chaque fois, nous stagnons sur la chaussée. Toutes les voies secondaires qui jadis suppléaient pour atteindre la ville, notamment Wangata, Plateau, de l'école dans la commune de Kinshasa, sont carrément oubliées. Nous avons assez de difficultés des routes ici. Toutes les routes sont abîmées. Que les autorités s'y penchent. Oui, ces routes se meurent. On citera dans les lots pour clore Nyangwe qui est presque coupé et Kalembelembe peu avant d'atteindre Mouchi à Lingwala.
L'Agence universitaire de la francophonie, AUF en sigle, une structure de l'Organisation internationale de la francophonie, préconise la transition numérique en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs pour l'exercice 2021-2025. Parmi les grands chantiers préconisés, il y a notamment l'implantation des nouveaux campus numériques, la création des centres d'employabilité pour encadrer des nouveaux diplômés, les recherches actions et le réseautage tout en tenant compte des besoins spécifiques à chaque pays ou région. C'est ce qui ressort du café de presse animé mercredi par visioconférence par le nouveau recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, le professeur Slim Kalbous, de nationalité tunisienne. Au sujet de la RDC, le programme prévoit notamment la création des deux nouveaux campus numériques, en plus de deux qui se trouvent respectivement à Kinshasa et à Lubumbashi, ainsi que la création des deux centres d'employabilité pour des jeunes.
Actualité Afrique Monde.
Nous sommes au Sénégal. L'opposant Ousmane Sonko a passé la nuit en garde à vue après son arrestation mercredi pour trouble à l'ordre public, ce alors qu'il s'est rendu à la convocation du juge d'instruction pour une accusation de viol. Après les heurts de mercredi dans la capitale et à d'autres endroits, le calme était revenu, mais hier, des heurts ont été encore signalés à l'université de Dakar et un mort a été recensé en Casamance. Aux États-Unis, les députés adoptent un projet de réforme des forces de l'ordre. Ce vote est hautement symbolique puisqu'il intervient à 5 jours de l'ouverture du procès contre un désormais ex-policier blanc accusé du meurtre de George Floyd. Le projet de réforme porte d'ailleurs le nom de cet Afro-Américain mort asphyxié sous le genou de l'agent de police. La loi George Floyd sur la justice dans les services de police est un pas énorme vers la construction d'une meilleure relation entre les forces de l'ordre et la population. C'est ce qu'a estimé hier la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi. En début de semaine, l'administration Biden avait fixé le cap, je cite, « pour reconstruire la confiance, il faut tenir les policiers responsables des abus de pouvoir et s'attaquer au racisme systémique. »
L'invité.
Après la fermeture des bureaux de la Fondation Hirondelle au Kasaï, quelques journalistes qui travaillaient avec cette ONG suisse ont décidé de mettre en place une structure dénommée Tshiondotsha Kasaï et cette structure continue le travail de la Fondation Hirondelle pour la stabilisation de la région du Kasaï. C'est ce que nous dit Joseph Mbouy, directeur exécutif de Tshiondotsha Kasaï, dans cet entretien avec François Kadima.
Monsieur Joseph Mbouy, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Après le départ de la Fondation Hirondelle, le groupe de journalistes qui travaillait pour cette structure internationale, ce groupe a décidé de mettre en place une structure appelée Tshiondo. Tshiondo composé des journalistes locaux qui travaillent avec la Fondation Hirondelle. Qu'est-ce qui vous a plus motivé?
L'idée remonte au 31 juillet 2020, la date officielle de la clôture du projet de la Fondation Hirondelle ici en province. Nous voulions pérenniser les acquis et les expériences de la Fondation Hirondelle. Parce que nous avons compris que la région du Kasaï est une zone post-conflit et que les femmes et les enfants demeurent encore des victimes de ces conflits que nous avons connus depuis 2016 jusqu'en 2018, début 2018. Alors nous nous sommes dit, notre façon d'apporter un plus à la consolidation de la paix, c'est produire des émissions pour pousser les communautés à vivre ensemble, c'est produire des émissions pour promouvoir les droits des femmes, ces droits qui ont été bafoués hier, c'est produire des émissions pour que l'État prenne en charge les enfants qui sont devenus orphelins au lendemain du conflit Kamuinasa.
Différemment de la Fondation Hirondelle, qu'est-ce que vous apportez? Parce que dans le programme Ngoma Kasaï, il y avait Portrait, il y avait d'autres programmes. Alors qu'est-ce qui est différent?
La différence actuellement, c'est que nous produisons un bulletin d'information de 10 minutes. Pourtant, à la Fondation Hirondelle, nous avions un bulletin d'information hebdomadaire. Nous produisons 3 bulletins d'information par semaine en 2 langues, en français et en Tshiluba. Mais parmi les faits que nous exploitons, c'est plus les sujets qui concernent les femmes, les enfants et les jeunes. Pourquoi les jeunes? Parce que les jeunes étaient utilisés hier comme instrument des troubles. Les jeunes étaient considérés hier comme des terroristes. Ce sont ces jeunes que nous voulons ramener à travers notre communication, à travers notre information, ramener à vivre ensemble, ramener à cohabiter avec les autres jeunes dans les différents groupements, dans les différents villages, les différents territoires du Kasaï central.
Tshiondotsha Kasaï n'a pas une chaîne de radio, disons-le comme ça. Alors qu'est-ce que vous avez mis en place comme plan médiatique pour essayer de faire marcher votre projet?
Nous avons écrit officiellement à 10 des radios locales parce que nous voulons bien sûr commencer dans la ville de Kananga. Ces radios sont suivies dans les différents territoires. Nous avons écrit pour que les radios nous accordent l'espace 1 heure par semaine, mais 20 minutes le jour impair. Donc lundi, mercredi et vendredi pour que nous puissions diffuser nos émissions. Parmi 15 radios que nous avons contactées, il y a 7 radios qui nous ont fait un retour. Ces radios nous accordent déjà l'espace, ce qui est un motif de satisfaction pour nous, parce que déjà, lundi 4 matin, nous balançons nos premières émissions à travers tous ces médias qui nous ont acceptés.
Cette radio qui ont décidé de vous accompagner, alors la Fondation avait un appui de l'Union Européenne, alors vous vous engagez dans un processus ou dans une activité qui va demander des moyens, parce que ces radios vont vous exiger de payer les espaces pour travailler. Alors comment vous allez faire pour essayer d'avoir des ressources pour que le projet réussisse, parce que les moyens vont également être exigés pour que le programme soit exécuté comme vous le voulez?
Nous sommes une ASBL. Une ASBL vit avec les cotisations de ses membres. Les 5 journalistes qui se sont réunis sont très déterminés. Ils cotisent régulièrement pour faire avancer les studios Tshiondotsha Kasaï. Mais déjà, avec les radios qui nous ont acceptés volontairement, nous avons sollicité cet espace gratuitement jusque-là, mais durant une période d'essai que nous considérons, nous, une période de 6 mois. d'essai. Après cette période, nous sommes obligés, parce que c'est une convention que nous avons déjà signée avec ces radios, nous sommes obligés de signer un petit partenariat avec ces radios pour qu'à la fin de chaque mois, ces radios puissent bénéficier ne serait-ce qu'une petite subvention en termes de carburant, parce que nous savons comment nos radios locales fonctionnent. Nous ne voulons pas que ces radios considèrent notre production comme une charge. Après la période d'essai, nous allons signer un partenariat pour faire avancer les choses.
C'est déjà ce vendredi la première production, vous l'avez dit?
C'est ce vendredi la première.
Très bien, alors qu'est-ce que vous allez proposer aux auditeurs?
Pour ce vendredi, nous comptons lancer un premier bulletin d'information de 10 minutes consacré aux activités commémoratives du mois de mars. Nous allons produire un journal de 10 minutes avec les activités, avec les structures féminines qui nous ont déjà accordé des interviews dans les différents formats bien sûr que nous traitons. Nous allons produire ce journal. L'idée c'est que les gens nous écoutent et comprennent qu'il y a une différence avec Ngomo wa Kasai et les studios Tchondo Tcha Kasai.
Monsieur Joseph Mbouyi, nous vous disons merci.
Voilà, c'était là notre invité, le directeur exécutif de Tchondo Tcha Kasai, une nouvelle structure qui remplace la Fondation Hirondelle. Il répondait aux questions de François Kadima. Par ici prend fin ce journal supervisé par Martin Sebujangwe. Merci de l'avoir suivi.